Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radios partenaires et 7 télévisions à travers le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de Radio Gaskia 89.5 MHz et Chukura 105.5 MHz. Aujourd'hui, le thème du forum est « Redevance pétrolière et développement de la commune de Guidimouni, état des lieux et perspectives ». Le Niger s'est engagé depuis 2005 dans le processus de la décentralisation défini comme un transfert d'attribution de l'État à des collectivités ou institutions différentes de lui et bénéficiant sous sa surveillance d'une certaine autonomie de gestion. Dans le code minier et pétrolier du Niger, l'État a prévu des mesures réglementaires pour ce qui est des finances allouées aux collectivités territoriales. Le législateur a consacré une rétrocession de 15% des redevances et autres impôts spécifiquement miniers et pétroliers à ces entités et la région de Zender bénéficie de 15% des taxes intérieures sur les produits pétroliers TIPP pour atténuer les effets de cette activité et promouvoir le développement à la base. Quel est l'état du recouvrement des fonds et des réalisations effectuées? Est-ce que les dépenses tiennent compte de la préservation des intérêts des générations présentes et futures? Pour discuter, nous recevons M. Sanoussi Mamane, maire de la commune rurale de Guidimouni, M. Saleh Mohamed Laoli, acteur de la société civile, et enfin Abdou Memouna Tijani, membre d'une organisation féminine. Je suis Mustapha Mamansani, correspondant du studio Kalangou à Zender pour la réalisation de cette émission. Selon la Constitution de 2010, en son article 149, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol doivent se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures. Monsieur le maire, nous allons commencer par vous. Faites-nous une brève présentation de votre commune.
Merci, Studio Kalangou, de m'avoir donné l'occasion de parler de ces redevances-là, mais aussi de la vie de notre commune. Je dois souligner que la commune de Guidimouni est située dans le sud du département de Damagaramtagaya. Nous sommes limités à l'ouest par les communes de Hamdara et Zermou, département de Miria. Au nord par la commune de Albelkaram et de Damagaramtakaya, toujours dans le même département. À l'est par la commune de Guidigir, dans le département de Gouré. Au sud par le département de Gouchi et de Magaria, qui sont respectivement dans le département de Magaria et de Dungas. Ça compte une population de plus de 110 000 habitants et a un conseil municipal qui compte 19 membres, dont 5 femmes. Ensuite, nous avons des potentialités, notamment d'ordre hydrique. Nous avons beaucoup de cuvettes. On dénombre dans les 70 cuvettes dans la commune de Guidimouni, ce qui présage un bon développement. Malheureusement, c'est à vue, ces potentialités sont menacées du fait des effets des changements climatiques, la pluviométrie, la remontée de la nappe phréatique, mais aussi l'ensablement des cuvettes et autres facteurs aussi qui viennent compliquer la vie, qui viennent compliquer l'exploitation de ces richesses dont la nature nous a doté. Nous sommes traversés par la RN sur plus d'une trentaine de kilomètres de la frontière à la partie sud. Et nous avons aussi des infrastructures d'ordre économique dans les marchés de Guidimouni, les principaux pourvoyeurs de fonds, qui est doté d'une plateforme paysanne pour les transactions agricoles. Nous avons la cuvette de Guidimouni de renommée internationale. C'est une cuvette à responsabilité internationale, donc qui renferme aussi des espèces des espèces qui sont très rares, notamment les crocodiles et les poissons de toutes sortes.
Merci Monsieur le maire, nous allons revenir à vous. Le temps de prendre Mohamed Lawali, acteur de la société civile. Comment exercer un bon contrôle citoyen de l'action publique?
Malgré que ici au niveau communal, les acteurs de la société civile donc ne sont pas bien formés sur leur rôle, mais quand même à travers des documents qui sont à notre disposition, nous ferons donc de notre mieux. Et s'agissant de contrôle citoyen, donc parfois nous partons sur le terrain pour voir réellement, voir ce qui se passe donc, concernant donc, les activités qui sont destinées donc, à la population. Et dès que nous constatons donc, un manquement ou quel que soit donc, les genres donc, de problèmes, nous informons donc à la minute le maire pour s'assurer de ce qui se passe réellement sur les activités.
Y a-t-il des obstacles particuliers dans l'exercice de votre contrôle citoyen?
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, et surtout avec le conseil donc, qui sont cédés, mais avec le présent conseil, avec le président du conseil comme lui aussi, avant d'être à la tête de ce conseil, donc c'est un acteur de la société civile qui connaît mieux, plus que nous-mêmes, les textes. Donc avec lui, nous n'avons pas de problème, parce qu'à chaque fois, quand nous venons vers lui, nous exposons donc nos problèmes, il agit pour remédier donc certains problèmes.
Je précise que M. le maire Sanoussi Mamane était le coordinateur régional de la NDDH Zender avant d'être élu maire de la commune rurale de Guitimouni. M. le maire, quels sont les montants que votre commune a reçus et dans quel secteur sont-ils dépensés?
Oui, dans le cadre de la redevance 2015, parce que nous sommes dans une situation de rappel de ces redevances, nous avons reçu 25 800 000 et quelques mille. Et ces deux aspects que renferme ce fonds-là, il y a un fonds d'investissement et un fonds de fonctionnement. Donc, avec le fonds d'investissement, nous avons eu, à travers des décisions du conseil municipal tenues à cet effet, nous avons investi dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'hydraulique. Voilà les principaux secteurs qui ont pu bénéficier de ces redevances pétrolières. Et nous avons à cet effet réhabilité 4 salles de classe qui étaient vraiment à une situation de délabrement ou qui n'étaient pas achevées. Nous avons payé 3 motos pour les conseillers pédagogiques au niveau des secteurs de l'inspection des primaires de Guitimouni. Nous avons construit ou procéder à une extension de la salle d'attente au niveau du CSI de Guitimouni. Et nous avons prévu, parce que nous sommes dans une situation de prévision, d'exécution d'une programmation, parce que l'accès au fonds nous pose des problèmes au niveau du trésor régional. Donc nous avons prévu de réhabiliter 4 installations hydrauliques qui sont en panne. Dès lors, le marché est déjà passé. C'est les procédures administratives qui nous bloquent, sinon on allait finir. Maintenant, pour le fonctionnement, effectivement, nous étions arrivés dans une situation où la mairie vraiment n'avait pas de moyens pour désintéresser, ne serait-ce les primes de l'exécutif, certains matériels aussi. Nous avons pu éponger des arriérés et aussi payer des matériels qui nous permettront de faire une bonne administration.
Y a-t-il des réalisations en faveur de la femme?
Oui, quand on dit la santé, c'est y compris la femme. Quand on parle d'éducation, c'est y compris la petite fille. D'ailleurs, les filles sont les plus nombreuses au niveau de nos établissements. Donc, c'est des investissements inclusifs. Ce qui est important, ces décisions-là d'investissement sont faites au niveau de notre conseil. Et ce conseil-là, il y a des femmes. Et on avait approuvé quand même ces investissements à 100% des membres du conseil. Donc, je pense que la femme aussi est concernée dans le choix de nos investissements.
Mme Allan, acteur de la société civile, est-ce que ces dépenses-là que vient de citer le maire prennent en compte ou tiennent compte des besoins réels de la commune de Guidimouni?
Oui, effectivement, parce que dans ces investissements, on a fait des réalisations dans le domaine de l'éducation. Et là, ça touche la population. Et la santé aussi, et l'hydraulique. Et ce sont les secteurs donc principaux qui touchent la population. Sauf que au niveau de réhabilitation donc de ces quatre classes-là, dans l'une des écoles, l'autre école Garangabas. Donc là, peut-être l'entrepreneur a peut-être bâclé les travaux. Mm-hmm. Et pour ça aussi, nous avons déjà donc informé le maire.
Mm-hmm. Madame Maimouna, je reviens à vous. Quelle appréciation faites-vous sur les dépenses? Est-ce que la vie de la femme est prise en compte?
Bien sûr que c'est que monsieur le maire avait dit sur l'investissement là, sur la vie de la femme, tu vois que bien sûr la femme est impliquée dans ce qu'ils ont fait. Puisque ça a touché l'éducation, la santé, il y a l'eau aussi, l'hydraulique, ça concerne la femme.
Vous êtes membre d'une organisation féminine, vos avis sont pris en compte dans la conception de ce programme?
Oui, dans le conseil, il y a des femmes même qui sont membres de cette organisation. C'est avec eux qu'on a pu prendre ces décisions-là.
Bien. Monsieur le maire, avez-vous des dépenses dans le sens de la protection de l'environnement ou de la protection du patrimoine culturel?
Oui, ça doit être la principale préoccupation d'un maire de la commune de Guidimouni, puisque la question environnementale et les changements climatiques sont palpables dans la commune rurale de Guidimouni. Comme je le disais tantôt, nous sommes dotés naturellement de potentialités, forcément qu'il va falloir protéger pour nous, pour les générations futures. Malheureusement, face aux effets des changements climatiques, qui sont caractérisés par de fortes pluviométries qui entraînent le ruissellement des eaux et l'ensablement des cuvettes, nous sommes obligés de chercher désormais, avec peut-être nos propres moyens et les moyens extérieurs, de penser à cette protection qui ne doit pas être théorique, mais qui doit être pratique. Parce que la commune de Guidimouni, la cuvette principale que vous, aujourd'hui, elle est inondée à 75% du fait des fortes pluies, mais aussi de la remontée de la nappe phréatique. Il y a aussi l'accroissement de la population au niveau de l'agglomération de Guidimouni. Et cela nous a interpellés et nous étions à notre dernier conseil, à notre première programmation budgétaire, ce qui nous a poussé à penser à élaborer un plan d'urbanisme de référence pour l'agglomération de Guidimouni. Parce que l'avenir doit être pensé avant que les désastres arrivent. Donc c'est ce que nous avons fait et nous avons délibéré sur la réalisation d'un plan d'urbanisme de référence. Cela nous permettra de savoir ce qu'il faut garder pour l'agriculture, ce qu'il faut garder face à l'accroissement incontrôlée de la population, là où il faut mettre nos gens et planifier l'extension de la ville de Guidimouni. C'est ça l'objectif que nous avons poursuivi. Donc, à travers le financement de ce plan d'urbanisme de référence qui va nous coûter un peu plus de 20 millions. Donc nous avons pris quand même les mesures nécessaires pour la protection de l'environnement. Mais j'avoue que la commune de Guidimouni à elle seule ne peut pas lutter contre les phénomènes, les processus de désertification, même s'il faut les dire, de la cuvette de Guidimouni. Il faut des grands moyens, il faut un grand programme. Et cela nécessairement nécessite l'intervention de l'État et de ses partenaires pour pouvoir sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder.
Vous aviez dit tout à l'heure que la cuvette de Guidimouni est une cuvette désormais internationale. Vous avez alerté sur le niveau de dégradation.
Ramsar, c'est un site Ramsar. C'est un site international. Et d'ailleurs, il y a certaines interventions obligatoirement, c'est au niveau international qu'il le faut. Mais la mairie d'ailleurs n'a même pas les moyens en fait de protéger aujourd'hui la cuvette de Guidimouni et les éléments qu'elle englobe. Nous avons alerté à toutes les occasions de rencontres la situation qui prévaut au niveau de la cuvette de Guidimouni et même de toutes les cuvettes. Je vous ai dit que nous avons plus de 70 cuvettes. Il y en a qui n'ont rien à envier à la cuvette de Guidimouni qui est visible. Au nord, nous avons une grande cuvette. Tout à fait aussi, nous avons une autre grande cuvette. Donc vraiment, c'est le même processus qui continue. L'envahissement par les typhas, l'ensablement, la remontée de la nappe, etc. Donc tout ça, là, c'est des facteurs, effectivement, qu'il faut songer à gérer pour les générations futures et actuelles.
Monsieur Mahmoud Laouli, le maire tout à l'heure a parlé d'un peu plus de 25 800 000 qui sont reçus dans le cadre de la rétrocession minière. Quel est l'impact des fonds rétrocédés au niveau du développement local?
Ce fonds-là va aider l'autorité communale à faire des réalisations énormes au profit de la population. Malgré donc qu'il ne peut pas couvrir le budget peut-être donc de la commune, c'est peut-être à un peu plus de 50 millions je pense. Donc mais ça peut contribuer énormément donc à faire des réalisations.
Est-ce qu'on sent un impact là au niveau de la commune?
Certainement, parce que c'est réel les actions là qu'on a fait avec ce fonds à travers les salles là qu'on est en train de construire au niveau du CCI.
Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour propulser le développement local?
C'est pas suffisant, mais ça peut aider, ça peut améliorer certaines situations.
Madame Maimouna, pensez-vous que les dépenses faites prennent suffisamment en compte les besoins des générations présentes et futures?
Bien sûr, ça prend en compte les besoins des générations présentes. Pourquoi? Parce que en première position, on avait parlé de l'éducation. Les dépenses qui vont vers l'éducation, là, ça va prendre les générations présentes et futures encore. Puisque si l'école est... si ça marche bien, ça aide beaucoup les générations. Encore, en ce qui concerne la santé, là, si les femmes n'ont pas de problème de santé, si un enfant est malade ou bien une femme est malade, bien, je prends l'ensemble, la communauté. Si quelqu'un est malade, on peut vite l'amener au CSI, le soigner bien. En tout cas, ça prend les générations présentes. Et futures aussi, si la santé va bien, tout le monde va bien. C'est ça. Il y a l'eau aussi. Si on parle d'eau, si les femmes n'ont pas de problème d'eau, on n'a pas... des problèmes.
D'ailleurs, le problème d'eau, c'est ce qui même amène le problème de scolarisation des filles.
Merci. Si sur le cas de l'eau, là, on n'a pas de problème d'eau, mais
tout va bien.
Oui.
C'est ça. Monsieur Laouli, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que ces dépenses respectent les besoins des générations présentes et futures?
Oui. Si nous prenons, par exemple, l'éducation, est-ce que c'est le domaine... qu'il faut mieux investir pour assurer l'éducation ou bien l'avenir même de générations donc futures. La santé aussi. Surtout que ici, nous avons un problème des agents de salle aussi. Avec ce fonds, donc la mairie a fait de son mieux pour au moins avoir d'autres salles. Parce que parfois, tu vas voir des malades qui sont assis sur l'ombre au niveau de ceci. Mais maintenant, donc, avec ce genre de réalisation, on peut donc atténuer ce problème donc, du domaine de la santé. Et même dans le domaine de l'hydraulique, il y a des extensions qu'on a fait de points d'eau, de bonnes fontaines publiques. Peut-être il y a deux ou trois extensions qu'on a fait.
D'accord. Monsieur le maire, est-ce que votre commune a eu toutes les deux rétrocessions?
Non, pour le moment, on attend. On a eu pour 2015, on attend 2016, 2017, etc.
2014, vous avez reçu?
Non, ils ont reçu, mais ce n'était pas sur notre...
Oui, mais la commune a reçu.
La commune a reçu. Nous avons trouvé ce fonds à dépenser, mais nous, on cherche encore à savoir ce qui s'est passé exactement avec ce fonds. Donc, ça relève du secret de l'ancienne gestion, mais aussi peut-être de l'État qui doit savoir ce qui s'est passé avec ce fonds. Et par rapport à cette question de préoccupation, de prise en compte des groupes, moi, je pense qu'un conseiller est là. Le conseiller représente tout le monde, quel que soit les genres, quel que soit le groupe. Donc, nous sommes là pour tout le monde. Et généralement, c'est nos décisions, nos délibérations sont prises à 100% de voix. Donc, j'avoue que les conseillers sont là. Moi, je sais que au niveau du conseil de Guidemoun, les débats sont rudes parfois, mais nous arrivons quand même à prendre la meilleure solution. Toutes nos décisions sont discutées et sont prises dans les cadres normatifs, dans les cadres légaux. Donc vraiment, nous essayons aussi de travailler avec notre PDC, qui est le document de référence et le code de collectivité territoriale. Donc, tous ces aspects-là sont pris en compte. Et donc, nous pensons que tout le monde se trouve. Mais ces moyens-là, en fait, ne peuvent pas, d'un coup de main, effacer ce qu'il y a comme problème à résoudre. J'avoue que même si les grandes communes ne le feront pas, c'est des programmations. Il faut chercher le moyen pour le faire. Quand nous allons faire ce que nous pouvons, les autres peut-être vont venir continuer, mais les besoins de la population sont énormes.
Alors, quelles sont les perspectives en matière de la gestion de ces fonds?
Bon, moi, je pense que la première préoccupation par rapport à ces fonds-là, parce qu'ils nous posent plus de problèmes que de solutions, parce que pour accéder à ce fonds-là, il y a toute une gymnastique. Aujourd'hui, pour faire un dossier financé par ce fonds-là, il vous faut au moins 3 mois. Ça veut dire que vous allez faire des va-et-vient entre les services de contrat, entre les trésors. Facilement, ça peut prendre 3 mois. Il faut partir faire ceci, il faut partir. Ça nous décourage. Et parfois, tu as même envie de ne plus avoir ce fonds-là. Parce qu'il y a tellement de verrous et tellement de choses pour des petites choses, pour faire réparer, je pense, des PME, des points modernes d'eau potable là. Et moi, je pense qu'il faut faire diligence. Généralement, c'est des infrastructures qui sont en panne. Et quel que soit le problème de gestion, lorsque le dossier présente quand même quelques petites corrections, il faut permettre aux collectivités de réparer pour mettre les gens dans leurs droits. Parce que la question de l'eau, l'approvisionnement en eau par exemple, c'est un droit fondamental pour les citoyens. Et il faut quand même faire diligence à certaines choses. C'est vrai, il faut être cartésien, mais il faut encore un peu de souplesse par rapport à la résolution de certains problèmes qui se posent à nos sites. Donc nous pensons que il faut revoir la procédure en matière d'utilisation de ce fonds-là. Ça, c'est le premier. Il faut encore que le fonds-là soit conséquent. Parce que aujourd'hui nous attendons une demande de 12 millions, contrairement à ce que nous avons reçu l'année passée, 25 millions. Aujourd'hui, nous attendons, la programmation est de 12 millions.
Pourquoi ça a diminué?
Peut-être nous, on cherche aussi les explications. Je ne sais pas.
Il y a eu le nombre de communes qui a augmenté entre...
Non, pas le nombre de communes. Le nombre de communes jusqu'à présent, ça n'a pas augmenté dans la région des Andes. Personne, nous, au niveau de nous autres, on ne peut pas expliquer pourquoi. Pourquoi, si ce n'est pas constant, ça régresse au lieu d'augmenter. Parce que normalement, ça doit partir avec la production. Ça rentre dans les secrets de ceux qui sont responsables de la production, mais aussi de la commercialisation de ces produits pétroliers. En tout cas, nous constatons quand même c'est des sommes qui sont allouées en dents de scie, quoi. Ça monte, ça baisse, etc. S'il faut compter, moi je pense à ce niveau, c'est qu'il faut préciser. Il ne faut pas que les citoyens se cachent derrière ce fonds-là qui arrive de manière improbable. Il faut qu'ils s'acquittent d'abord. Si on peut recouvrer ce qu'on a prévu dans le cadre de nos propres budgets, on peut faire beaucoup de choses. Et pour ce faire, les citoyens doivent se décharger de leurs obligations. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas compter sur une main extérieure à la commune. Il faut compter sur ses propres forces, sur ses propres moyens, parce que la décentralisation, effectivement, est conçue pour ça. Mobilisons nos propres moyens pour qu'on puisse propulser notre développement. Mais s'il faut attendre des programmes, des projets, de l'État, des redevances, on ne fera rien.
Est-ce que la commune de Guidemouni peut se prendre en charge si, par exemple, les gens s'acquittaient normalement de leurs taxes et impôts?
Je pense que si tout le monde s'aimait, si tout le monde accepte de s'exécuter par rapport à ses devoirs, nous sommes parmi les premières communes du Niger. Nous avons toutes les potentialités. Nous avons la population, nous avons les ressources naturelles, nous avons des infrastructures qui peuvent nous apporter les moyens. Le marché de Guidemouni, c'est un marché de référence. Si nos collecteurs, si nos commerçants acceptent de s'exécuter conformément à la loi, nous n'avons pas ce que nous aurons à chercher ailleurs. Ça ne sera qu'un appui. Notre commune est riche, elle n'est pas pauvre.
Monsieur Lawali, comment mieux gérer les fonds rétrocédés selon vous?
Pour mieux gérer ces fonds, il faut impliquer tous les acteurs pour mieux s'assurer des besoins réels de la population. Donc il faut impliquer la société civile, le groupement féminin, etc. Donc en impliquant toutes les couches donc, sociales, on peut identifier les besoins réel de la population afin aussi de prioriser ces besoins. Normalement, pour identifier le besoin, c'est le travail des élus.
Comment est-ce que vous pensez que les fonds reçus peuvent mieux être gérés?
C'est en jouant peut-être le rôle aussi des élus. Donc, on prend certaines informations, le besoin de la population, pour venir vers le maire. Oui, parce que c'est le travail de Zélie, mais on peut aussi faire ce travail donc à la place de Zélie. Mais nous venons vers le maire. À chaque fois, quand il y a besoin, nous venons vers le maire. Sauf que parfois, il y a certains conseillers ou bien certains proches du maire qui nous voient comme des antagonistes, donc des opposants. Alors que nous, on ne fait pas ça pour certains trucs qu'ils pensent. On fait ça dans le sens d'améliorer la situation, bien la vie de notre population.
Est-ce que la gestion est transparente selon vous, ici à Guidemouni?
Bon, au niveau de la mairie, quand il y a quelque chose, le maire nous envoie des convocations pour assister. S'il y a aussi d'autres activités que, ou bien le forum ou bien les ateliers nous invitent. Mais le seul problème que nous voyons, c'est aux conseillers d'aller vers la population donc pour chercher certaines informations avant de venir à la session. C'est ça, nous, ce que nous souhaitons.
Madame Memona, d'accord, ajouter quelque chose, monsieur le maire, oui.
Par rapport à cet aspect du débat, c'est la participation quand même citoyenne au niveau de prise de nos décisions. Moi, quand j'étais arrivé quand même à toutes nos sessions de conseil, sont libres, la participation est libre. Nous lançons des invitations à des groupes. Et nous informons amplement la population, celui qui veut passer pour savoir ce qui se passe. Là où il y a le problème, c'est par rapport à la mission même des conseillers. La mission des conseillers est mal comprise, peut-être par eux-mêmes. Parce qu'un conseiller qui doit venir à une session doit savoir ce qu'il doit apporter comme problème au niveau du conseil. Et à retour, il doit partir avec les solutions à ce problème-là. Est-ce que les problèmes qui sont posés par la base là, qui m'a élu, est-ce que ces problèmes-là ont trouvé leur solution ou bien il n'y a que des promesses? C'est ça la question des comptes rendus. Et je pense que d'une manière, pas la commune de Guidemouni, les conseillers doivent être suffisamment formés sur leur mission. S'ils sont bien formés sur leur mission, beaucoup de problèmes n'allaient pas se poser. Parce qu'on n'est pas conseillé juste seulement pour participer à une session. Il faut savoir ce qu'on va discuter à cette session. Les éléments qui peuvent rentrer dans le cadre du règlement de certains problèmes de la population et la restitution, c'est ça. Et un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la concentration de ce conseiller-là au niveau de l'agglomération de Guidemouni. Nos secteurs-là sont mal servis. Ce qui nous pousse à très prochainement, avec cette rentrée politique-là d'octobre, il faut repenser à répartir tous les conseillers selon des secteurs pour savoir que toi, tu es bon. Le problème qui se pose, c'est la politique. Est-ce que nous sommes capables de nous dépasser de nos considérations politiques pour nous exercer normalement? Et c'est ça la question qui peut, le problème qui peut se poser. Mais je pense en âme et conscience, il faut le faire ainsi et que les gens doivent se dire que lorsqu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais, c'est une responsabilité collective. Il faut s'assurer, il faut s'assumer.
Madame Emana, je vous repose la même question. Comment mieux gérer les fonds rétrocédés?
Les termes là, mieux gérer là. Moi, je vois même maintenant, il est mieux géré.
Ah bon? Ça ne peut pas être amélioré?
Oui, ça peut être amélioré, mais du moment qu'on a investi sur l'éducation, sur la santé, sur l'eau, c'est un atout.
Et c'est fini.
C'est pas fini en ce qui concerne les femmes.
D'accord.
Ce que je veux dire sur les femmes, c'est de les aider. Puisque ici à Guidemouni, la majorité des femmes font des activités génératrices là, de revenus. C'est de les aider, de les mettre sur une bonne voie quoi, pour mieux gérer ce qu'elles font. C'est ça.
Les femmes ont des exploitations ici?
Bon.
Agricoles?
Si on peut dire ça. Mais quelques-unes, pas toutes les femmes. Mais tout ce que je sais pour les femmes là, elles pratiquent des activités génératrices de revenus. Quand vous venez le dimanche là, vous allez voir que les femmes se débrouillent pas mal ici.
C'est elles qui commercialisent. Les hommes produisent et c'est elles qui commercialisent. C'est ça.
En tout cas, à Guidemouni, les femmes font de leur mieux pour gérer la famille. Il y a des femmes qui sont laissées même à eux-mêmes.
Vous pensez qu'une partie de ces fonds peut revenir aux femmes?
Bien sûr, bien sûr.
Comment elles vont faire?
Bon, on peut les aider. les mettre sur une bonne voie, comme je l'ai déjà dit.
D'accord.
Non, moi je voudrais compléter, hein, parce que par rapport à cet aspect des fonds-là, lié à la redevance pétrolière, en fait, peut-être s'il y a eu problème, c'est le choix des investissements. Quand ces fonds-là ont été octroyés au niveau des collectivités territoriales, le choix d'intervention est déjà ciblé par les bailleurs, l'État. Donc on a dit de n'investir que dans les domaines de l'hydraulique, l'école et la santé. Donc vous ne pouvez rien faire. En dehors de ça, vous ne pouvez qu'investir que dans ces domaines. Donc l'État pense effectivement peut-être que c'est des domaines prioritaires de la vie rurale. Quand la femme ne va plus à chercher de l'eau à 5 km ou à 2 km, une partie de ce problème est réglée, puisque c'est la femme qui fait la corvée de l'eau. Quand nos enfants sont à l'école, on pense que on est en train de former des têtes, pas des voyous, quand même, le problème. C'est réglé. C'est la santé. Lorsque vous partez à un centre de santé qui ne peut pas vous garder pour vous suivre, il y a problème. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut, par rapport à la population du village de Guidemouni, qui est de l'ordre de 20 000 habitants, avec un CSI, je pense qu'à certaines périodes, de certaines pandémies, il y a problème. On peut avoir insuffisance des infrastructures d'accueil. C'est ça qui a poussé les conseillers à faire ce choix-là. Donc, pour quand même sécuriser, pour mettre les gens dans les conditions minimales de séjour au niveau des centres de santé.
Les mairies ont un choix limité par rapport à l'investissement des fonds.
Nous sommes limités. On nous a cité tout simplement les secteurs, les domaines dans lesquels il faut utiliser ce fonds.
Pensez-vous qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être prioritaires pour votre commune qui ne sont pas pris en compte dans les fonds d'investissement?
Aujourd'hui, si on me donne ces moyens-là, sans tenir compte peut-être un mauvais gestionnaire, moi, mon problème, c'était de régler le problème de l'ensablement de nos cuvettes. Ça, je pense qu'il faut y passer, parce que notre avenir y dépend. Quand il n'y a plus l'eau, quand il n'y a plus la cuvette, je pense que notre avenir est compromis. Donc, c'est aussi des domaines dans lesquels on peut investir. Malheureusement, nous, on est peut-être, ou heureusement, malheureusement, je ne sais pas, au niveau de notre conseil, nos choix se sont basés sur les trois secteurs. On peut faire dans l'environnement, mais investir aujourd'hui 25 millions dans la commune de Guidemouni, dans le domaine de l'environnement, c'est une goutte de l'eau dans l'océan. Nos problèmes dépassent des millions.
On n'a pas pris en compte la population de la commune de Guidemouni, à peu près autour de
23 000 habitants, hein, selon les projections.
Ça veut dire que la répartition des fonds ne tient pas en compte la population.
Non, en fait, ce qui nous a lésés au niveau de cette répartition, ça c'est un facteur quand même très important, c'est la mobilisation des ressources propres. C'est un critère qui fait qu'on octroie plus ou moins à une commune. Lorsque vous mobilisez vous-même moins, on vous donne moins. Si vous faites plus, on vous donne plus. C'est ça en fait qui nous avait un peu bloqué, mais nous espérons les années prochaines, si ce critère-là ne peut pas être un facteur de blocage pour avoir plus dans la commune de Guidemouni. Parce qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à la mobilisation des ressources propres.
Mamala, une dernière question pour vous. Comment les organisations de la société civile peuvent aider les mairies afin d'éviter les retards ou les sauts de paiement? Tout à l'heure, le maire a parlé des fonds de 2015. Nous avons d'autres années qui attendent. Comment est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous pouvez aider ces mairies afin d'avoir les fonds régulièrement?
Nous ne sommes pas formés suffisamment. Mais malgré ça, nous pouvons aider notre commune à travers la sensibilisation de la population.
Mais le blocage, ce n'est pas au niveau de la population, c'est l'État qui bloque.
Ah, au niveau du blocage de ce fonds.
Voilà, oui, on ne reçoit pas les fonds régulièrement. En tant qu'acteur de la société civile, vous avez quelque chose à faire pour aider à avoir les fonds régulièrement?
Bon, franchement, je ne sais pas parce que...
C'est possible.
Hein? Je disais comment?
Oui, mais c'est possible, non?
L'État.
Franchement, je ne sais pas parce que je vous ai dit que nous ne sommes pas très bien formés sur ça. Parce que même si nous voulons agir dans ce sens, on ne sait pas où on va toucher. Sauf peut-être nos supérieurs. Donc,
La voix des acteurs de la société civile porte loin.
Oui, c'est ça. Je dis, sauf peut-être nos supérieurs donc, du niveau régional.
Mais est-ce que vous avez fait quelque chose à l'endroit de ces supérieurs régionaux pour...
Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais peut-être donc prochainement, on peut faire quelque chose. On peut donc toucher peut-être nos supérieurs, donc hiérarchiques.
Faire un plaidoyer.
Oui.
Monsieur le maire, dernière question pour vous aussi. Quels sont les défis en matière de la gestion des fonds rétrocédés, les grands défis selon vous?
Les grands défis, c'est d'abord nous mettre les fonds à temps. Il faut régulariser la situation des années antérieures. Si on pouvait les faire d'un coup, ça va permettre aux communes de faire un bon travail. Et ça permettra aussi aux communes d'être sûres. Aujourd'hui, nous avons programmé avec ces redevances annoncées pour l'année 2022, pour notre budget 2022, mais ça tarde à tomber. Donc, les grands défis, c'est la régularisation. Il faut essayer d'abord d'éponger nos arriérés en matière de ces redevances et aussi de mettre l'accent sur les règlements périodiques de ces redevances-là qui sont devenues un droit parce qu'il y a une loi qui dit que les communes ont droit à ça. Donc, c'est un meilleur respect de la loi. Donc, il faut que ça tombe de manière régulière et que à chaque année, ce qui a été prévu doit être versé dans le budget de communes pour qu'elles puissent faire une meilleure programmation. Ça nous évitera de faire des sessions extraordinaires parce que nous avons eu tout simplement un fonds qu'on n'attendait pas. D'autres choses, moi je pense que les choix aussi, même s'il faut laisser les secteurs qui sont à caractère social et prioritaire, moi je pense qu'il faut laisser aussi les choix à ces communes de voir parce que les problèmes ne sont pas les mêmes partout.
Merci. Et c'est la fin de ce forum du studio Kalangou. On retient que la commune de Guidimouni compte un peu plus de 110 000 habitants, un nombre important de kibbets qui sont malheureusement menacés par les effets du changement climatique. Les fonds reçus par la commune s'élèvent à plus de 25 800 000 francs. En 2015, ce fonds est réparti entre l'investissement et le fonctionnement. La mairie de Guidimouni a investi son fonds dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Néanmoins, elle a un épineux problème, celui de la gestion de la cuvette, menacée par plusieurs problèmes. Les dépenses tiennent compte des besoins des générations présentes et futures. Selon les organisations de la société civile, la commune est en train de se doter d'un plan d'aménagement urbain. Il y a des difficultés dans le recouvrement des fonds et les sommes diminuent d'année en année. Les fonds peuvent être mieux gérés si les conseillers municipaux menaient des enquêtes auprès des communautés afin de déceler les principales préoccupations de ces dernières. Le choix des investissements est déjà ciblé par l'État, donc les mairies n'ont pas une grande marge de responsabilité avec les fonds. La régularisation et la régularité dans le paiement des fonds est un grand défi pour les communes. Nous étions avec M. Sanoussi Maman, maire de la commune rurale de Guidimouni, M. Saleh Maman Lawali, acteur de la société civile, et enfin Mme Abdou Memouna Tijani, membre d'une organisation féminine ici à Guidimouni. Merci et au revoir.